c'est un plaisir de vous voir nombreux pour savoir si nous allons survivre au pétrole cher et volatile. Suspense. Et donc, je vais animer cette table ronde sur ce sujet très important, puisque le pétrole, comme vous le savez, c'est à la fois de la richesse, de la puissance, du pouvoir, Rockefeller. Vous avez peut-être vu un film récemment, There Will Be Blood, hein, c'est aussi de la violence. Et donc, en plus, c'est un ingrédient absolument majeur pour le système capitaliste et les autres d'ailleurs. Il n'y a pas de croissance sans cet input. Et ce qui est intéressant dans la période relativement récente, c'est que le pétrole peut être un accélérateur. C'était le cas jusqu'au début des années 70, puisque son prix relatif par rapport aux produits industrialisés n'avait cessé de baisser, et même son prix réel avait baissé. Donc pratiquement, il était gratuit et il avait facilité le développement d'un modèle de consommation de société, consommation américaine. Et puis, il y a eu les chocs pétroliers. Là, j'ai trouvé une reproduction d'un article de l'Expansion de mars 73. Mars 73, vous voyez, les nouveaux patrons du pétrole, les profits et le pouvoir désertent l'Amérique pour le Proche-Orient, c'est une révolution. Et donc, c'était des mois avant la guerre du Kippour. Comme vous le savez, il y a eu à ce moment-là un embargo sur le pétrole, un premier choc avec un quadruplement du prix, puis un second avec la révolution iranienne, où il y a eu doublement. Et donc, cela a provoqué la première récession en France depuis la guerre. Et puis ensuite, il y a eu un reflux, ce qu'on appelait le contre-choc pétrolier, une reprise de la croissance. Et même dans les années 2000, un boom, mais qui a provoqué une nouvelle épreuve. Là, ce n'était pas l'offre sur laquelle il y avait blocage, mais la demande qui a été très forte, amplifiée par la croissance de la Chine, de l'Inde. Et donc, on a vu le pétrole monter vers des sommets à près de 150, 140 dollars le baril. Et il y a eu une deuxième récession que nous vivons encore actuellement, et évidemment aggravée par des raisons financières. Depuis, le pétrole a reflué encore, il a été divisé par 3, et il a remonté, il a doublé. Donc, volatile, donc suspense, est-ce qu'on va, grâce aux participants, avoir une idée du comportement de cette variable essentielle à moyen et long terme? Est-ce qu'il y a risque de nouveaux chocs pétroliers au cours de la décennie 2010? Et puis, une autre considération, c'est que ces chocs ont provoqué une adaptation des économies. Je ne donnerai qu'un chiffre. En 1973, exactement au moment où le premier choc a frappé, il fallait un baril de pétrole pour produire 1000 euros de PIB. Et à l'heure actuelle, un tiers de baril. Et donc, il y a eu une baisse de ce qu'on appelle l'intensité énergétique. En plus, il y a eu une concurrence d'autres énergies, de sorte que le pétrole, qui était les deux tiers de la facture d'énergie primaire en 73, ce n'est plus qu'un tiers maintenant. Mais on va nous dire à terme ce qu'on peut attendre en 2020 ou 2030, et aussi voir si cette adaptation des agents économiques peut être permanente. Donc nous avons la chance, pour traiter ces questions majeures mais complexes, d'avoir quatre personnes ou personnalités particulièrement compétentes que je présenterai successivement et qui vont traiter le sujet en quatre temps. D'abord, Philippe Chalmin va faire une introduction historique sur les marchés de matières premières, en particulier le pétrole. Puis nous nous demanderons quelles sont les perspectives de long terme du prix du pétrole, en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande. Après, il y aura l'analyse de l'impact de ces chocs sur l'économie. Et enfin, l'analyse des comportements des agents et aussi des différents secteurs sous cet impact. Et enfin, en conclusion, je demanderai à chacun, en somme, ses préconisations pour savoir finalement comment survivre le mieux possible à cette contrainte. Alors, en ouverture, Philippe Chalmin va donc faire l'historique, et je rappelle qu'il est professeur à l'université de Paris-Dauphine, que c'est un spécialiste des matières premières. Philippe, ça fait plus de 20 ans que tu publies un rapport Cyclope. Sur le Cyclope, ça veut dire
cycle et orientation des produits et des échanges, mais c'était histoire de mettre.
Voilà,
ça, c'est marketing.
On a bien compris.
On met une marque sur le marché.
Et ça marche. Très bien marche. Et le dernier livre que tu as publié, c'est Le poivre. Le poivre et l'or noir.
Non, c'est Le monde à faim.
Alors, il y en a encore un depuis.
Le monde à faim, c'est sur les questions alimentaires et les problèmes des marchés agricoles.
Et je précise aussi que. Tu es membre du Conseil d'analyse économique, le CAE, ainsi que d'autres participants de cette table ronde. Et il se trouve que le CAE est en train d'élaborer, grâce à vous, un rapport sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Et donc, on va pouvoir glaner là, évidemment, l'essence de vos réflexions. Alors, Philippe, tu as la parole.
Simplement pour terminer l'autoflagellation, je suis à cette table le seul qui ne soit pas un économiste, puisque je suis un historien. Et je crois que c'est quand même relativement important, surtout pour essayer de comprendre ce que nous avons vécu. Alors, je vais peut-être commencer par vous parler justement de matières premières. Car au fond, le pétrole, oui, c'est une matière première, mais au sens où nous définissons les matières premières, ce qu'on appelle des commodités, c'est-à-dire des produits dont la logique de formation du prix est celle du marché et donc est celle de l'instable, le pétrole n'est vraiment devenu une commodité qu'à partir de 1985, le jour où l'OPEP a abandonné son système de contrôle du marché. Jusqu'en 1985, le prix du pétrole, ça avait été historiquement le prix du cartel des grandes compagnies, puis le prix de l'OPEP. À partir de 1985, le prix du pétrole, c'est le prix du marché, prix qui se forme par ailleurs sur ce que l'on appelle des marchés à terme, des marchés dérivés aujourd'hui, qui font, il faut bien le dire, aussi partie de notre problème. Alors, le pétrole, c'est la plus importante de toutes les matières premières, mais il est intéressant de voir que c'est une matière première aussi parmi d'autres. Et ce que vous voyez là, je vais vous passer deux ou trois petits graphiques. Ce que vous voyez là, c'est un panier de matières premières que nous calculons tous les jours avec Rexecode, donc qui est un des instituts de conjoncture importants au niveau français. Et tous les jours, nous calculons un indice basé sur un panier de matières premières. La courbe verte, c'est la courbe globale dans laquelle il y a de l'énergie. Il y a 45% de pétrole là-dedans. Je vous mets ensuite une trentaine de pourcents de produits agricoles et alimentaires, le reste étant des métaux non ferreux. La courbe bleue, c'est la même chose, mais j'ai enlevé le pétrole. Et vous voyez quand même des évolutions qui sont largement comparables et qui expliquent bien que ce que nous avons vécu en 2007-2008, ça a été, oui, un choc pétrolier, mais ça a été au même moment les émeutes de la faim et un choc sur les marchés agricoles. Ça a été, on va le voir, la flambée des prix des métaux, pratiquement la flambée de tous les marchés le choc précédent, car Philippe Le Fournier vient de parler du premier choc pétrolier, celui de 1973, on oublie qu'il avait été aussi un choc pour l'ensemble des marchés de matières premières. Si vous regardez ce graphique, vous constatez que vers la fin du XXe siècle, exactement fin 98, début 99, jamais les prix des matières premières, jamais les prix de l'énergie, des produits agricoles, etc., n'avaient été aussi bas. Et c'est assez symbolique d'ailleurs de voir que, au fond, c'est le moment dans lequel où le monde est en pleine croissance, c'est l'apothéose de la nouvelle économie. Je vous rappelle que la croissance économique française en 2000, c'est 4%, on les a fait les 4%, c'est comme 4000 dans les Alpes, mais c'est tout à fait exceptionnel. Et nous avons vécu à ce moment-là, dans ce sorte de mythe de la nouvelle économie, de la dématérialisation de l'économie, et au fond on se disait, les matières premières, ça ne posera pas de problème. Nous avons vécu, tout produit confondu à cette époque, une sorte d'illusion de l'abondance. Je vous rappelle que début 99, un baril de pétrole vaut moins de 10 dollars et que l'hebdomadaire économique le plus intelligent de la planète, la seule lecture à peu près intelligente qu'on puisse faire le week-end, qui n'est pas une lecture française, et on se prépare ensuite à lire Le Monde de l'économie, bien entendu, mais qui est The Economist. The Economist avait fait, début 99, sa couverture avec un Derrick en train de s'effondrer. Oil de point, $5 a barrel, point d'interrogation. Des gens intelligents pouvaient se demander, début 99, si le pétrole ne descendrait pas à $5 le baril. Vous le verrez un peu plus loin, il a terminé l'année à $25 le baril. Les Britanniques ont beaucoup de défauts, mais ils ont un certain sens de l'humour. Ils ont refait une couverture sur leur plus grosse erreur économique de prévision de l'année. Mais ceci, simplement pour illustrer le fait qu'à la fin du XXe siècle, nous vivons tellement l'illusion de l'abondance, les prix sont tellement bas que, bien entendu, l'effort d'investissement nécessaire pour renouveler nos ressources, pour développer de nouvelles capacités de production pour répondre à la demande, cet effort n'est pas fait. Or, que se passe-t-il à partir de 2001-2002? Eh bien, nous avons quand même des modifications extrêmement importante sur la scène économique mondiale. C'est d'abord le fait que le monde rentre entre 2002 et 2007 dans une période de croissance économique telle qu'il n'en avait jamais connue dans l'histoire. Le monde, dans son ensemble, roule sur ces 5 à 6 années à 5% de croissance. Et contrairement à ce que nous pensions, eh bien, les hommes sont faits de chair, de sang, de passion, donc de consommation. Ceci se traduit par une consommation, une augmentation globale de la demande de matières premières en général, et une augmentation très particulière venant d'un pays qui jusque-là avait fonctionné plus ou moins à guichet fermé et qui devient peu à peu le de pratiquement toutes les substances dont on a besoin sur la planète. Je veux parler de la Chine. Ce n'est pas un hasard. Vous voyez le point le plus bas là qui est atteint aux alentours de septembre 2001. En décembre 2001, la Chine adhère à l'OMC, la Chine rentre dans, elle est déjà dans la cour des grands de l'échange international, mais l'explosion de la croissance chinoise à ce moment-là se traduit par un besoin de matières premières d'abord, de métaux, pratiquement tous les métaux possibles et imaginables, mais aussi, on va le voir notamment sur la dernière période, de pétrole. Alors, le pétrole, il faut quand même en parler. Je voulais simplement vous montrer ce graphique. Je vous en le même, mais il est en quotidien, donc ça montre bien toutes les fluctuations que nous avons connues ces temps derniers. Vous rappelez un tout petit détail, et ça, dans les causalités, c'est important. N'oubliez pas que tout ce dont nous allons parler, Philippe a parlé de pétrole à $150 le baril, mais le dollar lui-même, c'est une commodité. Et nous avons ce paradoxe que tous les produits dont nous parlons sont cotés dans quelque chose qui est elle-même soumis à cette même logique d'offre et de demande qui est une commodité. Les anglo-saxons parlent de financial commodities. Et je pense que c'est là un des cœurs de la problématique monétaire mondiale, que d'avoir en même temps le dollar, qui est au fond la devise de la principale économie de la planète, un quart du PIB directement, et pratiquement la moitié du PIB mondial si je rajoute tous ceux qui sont payés de près et de loin au dollar, mais en même temps, le dollar, il est la mesure de toute chose à l'international. On peut toujours rêver de coter le pétrole, l'or, les autres matières premières en autre chose, c'est le dollar qui est la cotation de référence. Et donc, on voit bien qu'à partir de 2002, bien le dollar ne cesse de s'affaiblir par rapport à l'indicateur qui est le meilleur, qui reste quand même celui de l'euro. Et donc, il y a un parallélisme tout à fait intéressant à noter. Je vous passe ceci et j'en viens à mon cher pétrole. Alors, le pétrole, nous l'avions laissé, il était aux alentours de 10 dollars en 1999. Ensuite, je pense que Lionel en parlera un peu plus, nous avons une période dont on a pu penser qu'elle a représenté une certaine forme d'optimum de stabilisation, dans lequel, entre 2002, donc c'est avant mon graphique, entre 2002 et 2004 à peu près, le dollar se balade entre 20 et 30, le pétrole, pardon, se balade entre 20 et 30 dollars le baril. Et à l'époque, je me souviens avoir tenu des propos dans des enceintes comme celle-ci, disant, nous avons là trouvé l'optimum parfait, parce qu'en dessous de 20 dollars, c'est quand même embêtant pour les producteurs, et au-dessus de 30 dollars, vous n'y pensez pas, non, bon monsieur, cela provoquerait une nouvelle crise mondiale. Et puis, à partir de 2004-2005, eh bien, on rentre dans une phase nouvelle. Une phase nouvelle, et je dirais, elle se déroule pratiquement de 2004-2005 jusqu'à 2007-2008, et cette phase, elle est marquée, c'est très simple, par le fait que la croissance de la demande est telle, sans qu'il y ait, et ça c'est nouveau, quelque élasticité que ce soit, que pratiquement le monde consomme tout ce qu'il peut pomper. On rentre dans la période avec quelques capacités inutilisées, très rapidement celles-ci disparaissent. Et si vous regardez bien cette courbe, il y a une chose qui est amusante, c'est qu'on voit apparaître une nouvelle saisonnalité dans la courbe des prix du pétrole. Jusque-là, le marché du pétrole, il fonctionnait traditionnellement suivant les rythmes du principal consommateur, c'est-à-dire les États-Unis. Donc vous aviez la saison d'hiver, qui était la saison du chauffage, et puis s'il faisait très froid, ben, ça faisait plus de consommation, et puis vous aviez la saison d'été, qu'on appelle la driving season, le moment à partir du mois de juin où les Américains repartent on the road again avec leurs grosses américaines, leurs voitures bien entendu. Je sais, j'ai plus d'un minute, je sais. Bon, et donc et on a constaté à partir de 2004-2005 une nouvelle saisonnalité avec ce qu'on appellera la saison des cyclones. À partir du mois de juillet, le marché rentrait dans une sorte d'angoisse en se disant, va-t-il y avoir des cyclones dans le golfe du Mexique? S'il y avait la menace du cyclone, c'était certainement, alors c'est Katrina, et je vous rappelle que Katrina c'est en 2005, et vous voyez le moment, pour la première fois on dépasse les 70 dollars le baril, mais c'est moins pour les destructions de la Nouvelle-Orléans ou ailleurs, c'est le fait qu'en période de cyclone, on est obligé d'arrêter toute la production offshore américaine. Katrina, ça s'était traduit par 1,5 million de barils le jour de moins pendant quelques semaines et 500 000 barils le jour de production qui ont été arrêtés pendant 3 ou 4 mois. Alors, juste un équilibre, le monde chaque jour, aujourd'hui, le monde a consommé 85 millions de barils. Bon. Le fait que l'on puisse être tendu à partir de 2004-2005 pour des accidents pouvant provoquer la disparition du marché de 1 ou 2 millions de barils montre bien que nous étions dans une phase de tension extrême. Et chaque année, vous voyez, 2005, 2006 encore, le moindre crainte de cyclone faisait passer les prix à des barres supplémentaires. En 2007, on fait, vous le voyez, le grand écart, on démarre à 50 dollars, on finit à 100 dollars, et puis ensuite il y a cette phase que on a évoquée du premier semestre de 2008, où on est passé en 6 mois de 100 à 147 dollars le baril, qui est le record des prix, 147 dollars le baril, qui a été atteint le 10 juillet 2008. Alors, qu'est-ce que, au fond, cela signifiait ? Lionel Rago vous parlera des déterminants de l'offre et de la demande. N'oublions pas qu'un prix, à un moment donné, c'est la somme des anticipations de ce que se font les opérateurs, de ce que sera demain le rapport entre l'offre et la demande. Physiquement, il y avait du pétrole, mais tout le monde anticipait à l'époque que nous allions en manquer, ce qui n'était pas absolument idiot d'ailleurs. Et on voyait bien qu'il n'y avait pas tellement de capacités nouvelles. Au fond, ce que l'on a payé dans cette crise et dans ce troisième choc pétrolier, c'est l'absence d'investissement durant les années précédentes. N'oubliez pas une chose, c'est que le temps du pétrole, comme le temps des matières premières, est un temps long. Pour, entre le moment où vous décidez d'un investissement et le moment où le champ pétrolier produit à pleine capacité, il peut se passer 10-15 ans. Et d'autant plus que le pétrole y vient en général. Philippe a dit que le pétrole c'était le pouvoir. Moi je dis que le pétrole, c'est le malheur. Le malheur pour les producteurs. C'est malheureusement compatible. Et donc, les pays pétroliers ne sont pas en général des pays où règne la tolérance et l'amour du prochain. Lorsque vous montez un projet comme le grand projet de Kashagan, qui est monté par tout un consortium de compagnies pétrolières dans le nord de la Caspienne, dans un pays sympathique comme le Kazakhstan, bien, les retards ne cessent de s'accumuler. Toujours est-il que c'est vrai, alors je prends ma minute, juste, c'est vrai que début juillet 2008, nous étions dans un moment de ce que Greenspan a appelé d'exubérance irrationnelle. Sur les marchés de matières premières, nous en connaissons. C'est ce moment où on se dit, ça ne peut que monter. Un analyste de Goldman Sachs ne disait-il pas début juillet que... à l'automne, nous serions à 250 dollars le baril. Il faut se souvenir de ces analyses. Là-dessus, le retournement intervient avant la crise économique. Et n'oublions pas une chose, la flambée du pétrole n'a pas de responsabilité directe dans les accidents économiques que nous avons connus. Le retournement, il est à mon sens directement lié au retournement du marché du dollar. C'est au même moment que l'on assiste au renforcement du dollar par rapport à l'euro. Ensuite, la chute, et vous l'avez vu, on la retrouve sur toutes les matières premières, elle est liée au retrait de la Chine d'un certain nombre de marchés, elle est liée aussi à la panique qui prend le monde à partir du 15 septembre 2008 et de la faillite de Lehman Brothers, elle est liée aussi à la crise économique d'une violence extrême que nous avons connue au dernier trimestre 2008. Et vous voyez, on tombe et on arrive à 32 dollars le baril. Depuis, nous sommes remontés grossièrement de 32 à 80. Alors là, et justement c'est intéressant pour essayer de comprendre un petit peu les déterminants des prix du pétrole, c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Un, le dollar a rechuté. Et donc il y a une composante dollar dans cette remontée des prix du pétrole. Deux, il y a quand même une certaine reprise économique et notamment la demande chinoise ne cesse de battre de nouveaux records mois après mois. Trois, il y a eu aussi un effort incontestable des producteurs. L'OPEP a pratiquement sorti entre 3,5 et 4 millions de barils jour du marché. Bon, ils ont eu de la chance, il y a une guerre civile au Nigeria, ça arrange les choses, ça rend un peu plus vertueux, mais il y a eu un effort incontestable. Et puis enfin, et ce sera peut-être un des sujets de discussion, mais je vais m'arrêter, ne t'inquiète pas, il y a eu un effet, ouvrez les guillemets, spéculatif. Et il faut le prendre au sens véritablement étymologique. À partir du moment où ma seule certitude est que demain le prix du pétrole sera différent, est-ce que je vais faire le plein de mon automobile aujourd'hui ou demain ? Je me situe donc dans une anticipation spéculative. C'est vrai que sur les marchés dérivés, cette spéculation, je dirais entre guillemets, elle est industrialisée. Et c'est vrai par ailleurs que dans un monde où il y a beaucoup de liquidités, nombre d'institutionnels, donc les gens qui gèrent vos retraites et votre épargne, vos assurances-vie, etc., ont eu tendance à se porter sur les commodités et sur la principale d'entre elles, le pétrole, comme une sorte d'arbitrage par rapport à la faiblesse du dollar. Tout ceci a pu jouer. Nous sommes aujourd'hui à 80 dollars dans un monde où, à la différence des périodes précédentes, il y a des marges de manœuvre, il y a des capacités inutilisées. Il n'en reste pas moins que le message qui était celui de 2008, qui est encore celui d'aujourd'hui, c'est simplement ne pas se dire ce sont d'infectes spéculateurs qui ont tout manipulé. Non, le marché, dans sa très grande sagesse de court terme, nous a donné un message de long terme qui était de nous rappeler que le pétrole c'était rare, que le pétrole c'était sale et qu'il était temps largement de payer le prix et de la rareté et de la saleté. Soyez sûr qu'il n'y aurait pas eu de Grenelle de l'environnement si le pétrole avait été à 20 dollars le baril.
Merci Philippe.
Je voulais surtout pas lui piquer, c'est...